France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. L'Union européenne laisse à Londres deux possibilités pour un Brexit avec un accord. Si les députés britanniques adoptent la semaine prochaine le texte négocié par Theresa May, alors la date du Brexit sera reportée au 22 mai prochain, veille des élections européennes. Si les députés rejettent une nouvelle fois le texte, alors Londres aura jusqu'au 12 avril pour décider d'organiser des élections européennes ou non. En cas d'élection, le report pourrait être bien plus long, d'au moins un an. En cas de refus d'organiser ces élections, alors la sortie se fera de facto le 12 avril, deux semaines de délai, pas plus. Il appartient aux Britanniques de lever les ambiguïtés qui sont les leurs. Nous n'en avons pas. Voilà ce qu'a déclaré hier soir le président Emmanuel Macron lors du sommet européen à Bruxelles. Le président français qui invite par ailleurs la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker à Paris mardi matin. Il veut une concertation sur le commerce et le climat avec le président chinois Xi Jinping qui est en tournée en Europe actuellement. Donald Trump se dit favorable à la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Une nouvelle décision en rupture avec la position américaine depuis des décennies maintenant sur ce dossier sensible. Le plateau du Golan est à la frontière entre Israël, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Une décision qui va aussi dans le sens de ce que souhaite le gouvernement de Benjamin Netanyahou à moins de trois semaines maintenant des élections en Israël. L'ancien président brésilien Michel Temer a été arrêté hier à Sao Paulo au Brésil. Il est accusé de corruption trois mois après avoir quitté le pouvoir. C'est une affaire en lien avec de possibles pots de vin pour construire une centrale nucléaire dans le pays. Michel Temer passe donc la nuit en prison. En France, le Sénat a signalé hier au parquet de Paris les déclarations de trois collaborateurs d'Emmanuel Macron, dont le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Ils sont soupçonnés d'avoir maquillé la vérité lors de leurs auditions sur l'affaire dite Benalla. Le gouvernement dénonce l'instrumentalisation politicienne. Et puis, notons ce vote à l'Assemblée nationale hier soir. Les députés actent la possibilité de vaccination des pharmaciens et des sages-femmes dans le cadre de la loi santé.
France Culture présente Alberto Giacometti, Peter Lindbergh, Saisir l'invisible. L'exposition présentée à l'Institut Giacometti propose de découvrir des photographies inédites des œuvres du sculpteur prises par Peter Lindbergh, l'un des photographes les plus importants de sa génération. À ces photographies sont associées une sélection de plâtre, de bronze et de dessins. Un face-à-face qui révèle de nombreux points communs entre les deux artistes. Alberto Giacometti, Peter Lindbergh, Saisir l'invisible, jusqu'au 24 mars à l'Institut Giacometti à Paris. Un partenariat France Culture.
Nous retrouvons Toufik Hakem à 6h03 sur France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, ce réveil culturel est enregistré en public au Salon du Livre et cette émission est diffusée à la radio ce vendredi 22 mars. Et ce vendredi, c'est une journée spéciale sur France Culture à l'occasion de l'exposition « Le modèle noir » qui s'ouvre au musée d'Orsay, exposition qui s'attache à questionner la représentation des figures noires à travers les œuvres les plus révélatrices de Delacroix, Géricault, Manet ou Matisse, et quelques photos d'ailleurs, des photographies de Nadar, entre autres, une exposition qui montre aussi la personnalité des modèles noirs et leur lien avec les artistes, ce qui nous permet aujourd'hui sur France Culture d'élargir le débat. Et pour commencer, puisque le vendredi, dans le réveil culturel, on parle de bande dessinée, de questionner la représentation des Noirs dans la bande dessinée mondiale avec l'historien Pierre Cra, qui est présent avec nous. Merci d'être venu. Pierre Cra, vous êtes historien, donc spécialiste d'histoire afro-américaine, chargé de cours en civilisation américaine à la Sorbonne. Vous avez étudié, beaucoup écrit sur les archétypes, les caricatures et stéréotypes noirs dans les films d'animation et dans la bande dessinée américaine. Alors avant de discuter avec vous de cette représentation des Noirs, de son évolution ou pas, peut-être Pierre Cra, dites-nous pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet.
Vraiment, ce qui m'a motivé pour aller de l'avant et pour vraiment détailler ce sujet en particulier, donc que ce soit les dessins animés ou la bande dessinée, on a tendance à les considérer comme des objets d'études qui ne seraient pas légitimes parce que ça s'adresse à un public jeune et qu'elles n'auraient pas toute la légitimité, le poids de l'histoire derrière elles qu'elles pourraient avoir. Alors qu'à mon sens, si, il y a vraiment quelque chose à en tirer, il y a quelque chose de très profond qui est très très en lien avec une époque l'époque à partir de laquelle toutes ces images ont émergé.
Et plus précisément sur la représentation des Noirs dans la bande dessinée.
Mm-hmm. C'est tellement personnel, mais je pense que par habitude, on va plutôt se tourner vers des médiums ou des médias, en l'occurrence comme celui du cinéma. Il y a énormément d'études qui ont déjà été publiées là-dessus, sur la représentation des Noirs dans le cinéma. Il n'y en a pratiquement pas sur le cinéma d'animation, donc c'est pour ça que j'ai vu un intérêt à le faire. Et en revanche, il y en a relativement peu également, il y en a quelques-unes certes, mais il y en a relativement peu au niveau des Noirs dans la bande dessinée. Sachant qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais la bande dessinée, la caricature de presse, le dessin animé, ce sont des disciplines qui sont enchâssées les unes dans les autres, qui ont une histoire commune. Les caricaturistes de presse, par exemple, ont un petit peu bourlingué, ont un petit peu navigué artistiquement, intellectuellement et sur le plan de leur parcours personnel entre donc la caricature de presse, le dessin animé, qui était très très balbutiant, si vous voulez, au début du XXe siècle, et aussi le comic book aux États-Unis, aussi la bande dessinée. Donc vous avez comme ça une espèce de dialogue intermédiatique qui, moi, m'intéressait personnellement, et de voir la représentation de l'autre là-dedans.
Quand vous dites personnellement, Pierre Kras, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous êtes posé aussi des questions, vous, en tant qu'enfant, qu'adolescent, quand vous lisez ces bandes dessinées, et sur la représentation ou la place accordée aux Noirs ?
Avec mon regard d'enfant, évidemment, on n'a pas, même si on sent certaines choses, on n'a pas forcément le recul historique, le recul intellectuel qu'on peut avoir une fois qu'on les étudie, une fois qu'on rentre en profondeur. Mais oui, un enfant, lorsqu'il y a quelque chose de caricatural, lorsqu'il y a une représentation qui est outrée, qui n'est pas dans un cadre, j'ai pas envie de vous dire normal, parce que qu'est-ce que la norme, mais vous le sentez, je pense, instinctivement, que quelque chose n'est pas forcément en votre faveur, surtout si vous-même, vous êtes afro-descendant ou noir, en l'occurrence, vous le sentez. Vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas, qui est péjoratif, qui est de l'ordre du péjoratif.
Vous l'avez ressenti en tant que lecteur, enfant, adolescent, Pierre Kras ?
Comme tout le monde, je pense comme tout le monde. J'ai pas forcément d'exemples qui me viennent en tête parce que ça fait très longtemps que je suis plus un enfant, malheureusement pour moi. Moi-même, j'ai eu des questionnements, tout enfantin qu'il soit, j'ai eu des questionnements par rapport à certaines œuvres comme Tintin au Congo, par exemple. Je me posais la question du pourquoi Tintin, j'adorais Tintin quand j'étais petit, j'en ai lu énormément, on m'en lisait aussi énormément. Pourquoi est-ce que ces personnages sont représentés sous une certaine forme, sous certains traits ? Pourquoi, en fait ? Pourquoi est-ce qu'ils sont ? C'était de la caricature, en l'occurrence. Hergé l'a lui-même dit, d'ailleurs. Il a lui-même avoué qu'il s'est basé sur des on-dits, sur des poncifs récurrents qui existaient en Belgique à l'époque. Donc, même si vous êtes enfant, que vous ne le sentez pas, vous ne savez pas ça, évidemment, mais vous avez tout de même cet arrière-plan qui vous fait dire que c'est... Voilà, il y a quelque chose qui vous titille, qui vous intrigue, qui vous gêne même parfois. Et c'est qu'une fois après, avec tout le recul historique, la connaissance, que vous apercevez que oui, il y a des biais cognitifs, des biais intellectuels, des biais culturels qui sont liés à tout ça.
Pierre Kras, vos travaux universitaires ont été médiatisés, connus l'année dernière avec la sortie du film La Panthère Noire.
Oui.
Donc oui, parce que c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait un universitaire, un historien en l'occurrence, qui avait travaillé sur cette question-là. Le succès du film aidant vous a beaucoup interviewé. Alors s'il fallait partir de cette bande dessinée, de cette époque, donc les États-Unis, les années 60, ce personnage créé par deux grands auteurs de la bande dessinée américaine, c'est-à-dire le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby. En quoi la Panthère Noire, Black Panther, est un événement important dans la représentation des Noirs dans la bande dessinée ?
En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le personnage de Black Panther arrive à un moment de l'histoire des États-Unis et de l'histoire africaine-américaine, en l'occurrence, qui est charnière. Il arrive en 1966. Qu'est-ce qui se passe en 1966 ? Un an avant, on a Malcolm X qui est assassiné. On a toute cette idéologie fraternaliste, enfin fraternelle en l'occurrence, qui a été l'idéologie d'intégration prônée par Martin Luther King, qui ne fonctionne plus. Martin Luther King sera assassiné 3 ans plus tard, donc en 1968. Ça ne fonctionne plus. On se rend compte que l'intégration, ce n'est pas pour tout de suite. En 1964, donc juste un an avant l'assassinat de Malcolm X, il y a une loi qui est passée qui rend inconstitutionnelle la ségrégation. Donc en principe, les Noirs et Blancs sont égaux dans les États du Sud, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Or, ce qui se passe, c'est qu'en 1966, on a toute cette jeunesse noire aux États-Unis qui est très motivée, qui est très remontée également, qui ne veut plus, littéralement, je reprends les mots de Martin Luther King, qui ne veut plus tendre l'autre joue et qui s'insurge de tout ce qui est en train de se dérouler sous ses yeux. D'ailleurs, le hasard du calendrier veut qu'en 1966, quelques mois après la publication de la première apparition de Black Panther,
ouais, ce soit bien de préciser première apparition, parce qu'il ne sera pas un héros à part entière tout de suite. Oui.
Non, pas tout de suite. Il était, je crois, une partie de l'univers des Quatre Fantastiques, il me semble. Et quelques mois après, on a donc la fondation, en octobre 66, du parti des Black Panthers. Ceux qu'on connaît le plus, que l'histoire a retenu, si on veut. L'histoire avec un grand H, c'est pas forcément l'histoire de la bande dessinée, mais vous avez le parti des Black Panthers, donc qui est un parti politique qui vise à l'émancipation, qui vise à l'autodétermination du peuple noir, etc., etc. Et le hasard du calendrier fait que ça tombe la même année, à quelques mois près de cette création. Donc on a vraiment tout ce contexte-ci, qui est un contexte de changement. La jeunesse noire est beaucoup plus radicale, veut s'émanciper par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le passé. Elle ne veut plus de ces idéaux d'intégration, pour la plupart, et elle s'éloigne en fait des canons d'intégration de la partie noire bourgeoise des États-Unis.
Donc, en quoi ce personnage de Black Panther est-il différent des autres personnages noirs qui ont été représentés dans la bande dessinée américaine ?
Déjà, c'est un personnage qui est africain, puisqu'il vient d'un royaume fictif, certes, mais qui est un royaume africain qui s'appelle le Wakanda. Le royaume du Wakanda, en soi, est un exemple déjà de réussite économique, de réussite politique. C'est un royaume qui vit en autarcie totale par rapport à l'Occident. Et surtout, le personnage en soi, c'est ni un personnage secondaire, ni un personnage, ce qu'on appelle un sidekick en anglais, donc c'est-à-dire le copain un petit peu rigolo du héros qui intervient pour l'aider et le débarrasser de toutes les situations un peu difficiles. Et vous avez donc Black Panther, qui est le personnage principal. Le comic book s'appelle Black Panther lui-même, donc c'est vraiment le héros, le personnage central de cet univers-là. Et c'est un roi qui doit veiller sur son peuple, c'est un roi qui a des choix à faire, qui est tantôt bienveillant, tantôt assez dur, etc. Mais c'est un personnage qui est complexe, déjà, qui n'est pas monolithique, et qui s'inscrit vraiment en rupture par rapport à tout ce qu'on a pu voir auparavant. J'ai en tête, par exemple, le personnage de Lothar, pour les
serviteurs de Mandrake.
Tout à fait, de Mandrake, dans les années 30, qui lui d'ailleurs est en train de changer. Qui est en train de changer, justement.
Qui va évoluer avec la société.
Tout à fait, puisqu'il passe un petit peu de personnage qui est quasiment muet, qui est habillé en peau de bête, qui est un personnage d'indigène, entre guillemets, à un personnage vraiment secondaire qui vient aider Mandrake, mais qui reste aussi un prince dans son royaume. Et là, pour la première fois, on a un personnage qui est directement avec Black Panther, est un roi, est un personnage central, est important, et surtout qui n'est absolument pas caricatural.
À qui s'adressait à l'époque cette série de bandes dessinées Black Panther, Pierre Krah ? Est-ce que ça s'adressait à un nouveau public, le public des Noirs ? L'idée de départ, c'était quand même de proposer un super-héros de couleur, mais pour tout le monde, à la manière de Superman ou de Batman.
Mm-hmm. C'est très difficile de se prononcer a posteriori, mais je vous dirais que c'est plutôt qui s'adresse au plus grand nombre de gens possibles, des Noirs bien entendu, mais aussi des Blancs qui voudraient voir un renouveau par rapport à tout ça, qui étaient majoritairement des jeunes, puisque le comic book, c'est pas forcément réservé aux jeunes, mais l'audience principale, première qui est visée, ce sont des jeunes gens, majoritairement. Donc, dans le cas de Black Panther, je pense que ça s'adresse un peu à tout le monde. Voilà, tout le monde peut y trouver son compte.
Alors, Pierre Krah, vous connaissez sans doute l'ouvrage de référence sur sur les images noires, la représentation des Noirs dans la bande dessinée mondiale de l'historien suédois Fredrik Strandberg, qui lui, avec une approche chronologique, a bien montré comment la présentation des Noirs était d'abord des stéréotypes peu flatteurs, parce qu'on avait tout, on avait l'indigène, on avait le copain mais un peu schnappant comique, on avait aussi le mauvais Noir violent et rebelle. Est-ce qu'avec Black Panther, on remet en cause tous ces stéréotypes ou bien aujourd'hui, on peut aussi questionner la représentation des Noirs à travers Black Panther ?
Je pense que de toute façon dans l'absolu, on peut toujours essayer d'en dresser une critique ou d'avoir un recul critique par rapport à une représentation ou par rapport à une époque. Mais ce qu'a fait Frédéric Stromberg, oui, c'est la description chronologique et de voir surtout sur un temps long l'évolution. Puisque aux États-Unis, en tout cas, les premières représentations des Noirs dans alors c'est pas des comic books à l'époque, ce sont des comic strips, donc ils sont parus dans la presse. Ça date du 19e siècle. Donc on a vraiment un temps extrêmement long. Et quand on arrive à Black Panther, on a plus de 150 ans de représentations derrière nous qui sont influencées par l'histoire avec un grand H et aussi par le médium en soi de la bande dessinée. Et du coup, Black Panther, on peut toujours en dresser une critique, mais en l'occurrence, il a vraiment été là à un moment charnière. Donc c'est ce qui le rend intéressant historiquement, ça le rend aussi intéressant pour le public, et c'est ce qui le rend aussi intemporel, parce que c'est la grande force des super-héros de Marvel, c'est que ce sont des super-héros, enfin la figure du super-héros en tant qu'allégorie, est constamment renouvelée par rapport à un contexte, son contexte environnant. Dans les années 60, les X-Men, voilà, c'était une métaphore de tous les gens qui étaient à la marge, donc les immigrés, les Noirs aux États-Unis, tous les gens qui souffraient du système dominant, etc., etc. Les gens qui souffraient de racisme, les mutants qui sont mis au banc de la société, ce sont les gens qui souffrent de racisme, quel qu'il soit. Black Panther, alors maintenant, avec le recul, on peut essayer de le prendre, bien sûr, avec des pincettes. Le seul petit argument, je suis biaisé parce que j'aime beaucoup ce comic book, et on voit d'ailleurs qu'il a évolué aussi, que Black Panther lui-même a évolué au sein de
jusqu'à l'adaptation cinéma, on va en parler.
Tout
alors,
à fait.
C'est quoi le petit problème que
alors,
vous avez,
entre guillemets,
vous, Pierre Crave,
je mets des gros guillemets, ouais. Mais c'est la vision de l'Afrique par les États-Unis, qu'ils soient africains-américains ou qu'ils soient blancs-américains. Il y a toujours cet éloignement géographique et l'éloignement idéologique qui fait que c'est une Afrique magnifiée, fantasmée.
La représentation des Noirs dans la bande dessinée américaine et française, on va y arriver dans le réveil culturel. Dans un instant, nous serons rejoints par Sonia Deschamps du magazine Casemate.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
The world is a groovy place today, though it hasn't always been. You know, at one time, even black people thought that our blackness was a sin. So I know you feel what I do when I tell you how it feels to know that black sure is beautiful. It makes your soul feel real. Black is so beautiful. I wonder, are you hip to that? I mean, black is so beautiful, and that's just where it's at. All around, your brothers and sisters are kinda getting into their thing. I mean, minds are becoming blackened eyes, and it makes you wanna sing. It's such a gas when you think about how nothing could keep the black man down. Even though they tried to hide it, check out all this bad black pride that we found. Black is so beautiful. I mean, it makes you wanna say right on. Black is so beautiful, and it's good to see the old days gone. Hey, touch that fine black skin. You know, when you think about it, tans do prove that black is in. My third world people, above all others, we know where you're all at. Black is beautiful, and so are you. You see, we look at you as blacks. I want to say right here that if you're down, pride in our color. Number one, wherever you're at, you see, you obviously ain't a brother. And number two, black pride ain't a racist bag, it's just digging what we have. We were too long in that other bag to even realize what we had. Yeah.
Journée spéciale sur France Culture à l'occasion de l'exposition Le Modèle Noir. Et dans le réveil culturel, on reçoit l'historien Pierre Crac qui lui a travaillé sur les archétypes, caricatures et stéréotypes noirs dans la bande dessinée et le film d'animation. Là, on vient d'écouter Gary Bird, c'était en 72, Black is Beautiful. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de cette année-là, les choses sont bien cadrées, la représentation des Noirs américaines ne pose plus de problème, Pierre Crac?
Alors, plus de problèmes, ce serait beaucoup dire, mais pour schématiser, pour résumer vraiment la chose, on peut dire qu'on n'est plus du tout dans la même dynamique que ce qu'il y a eu durant 50 ans, voire quasiment 100 ans auparavant. En 72, je pense à ça, là, je vois notamment, c'est la publication de Luke Cage, qui a eu le droit à sa série récemment sur Netflix, qui s'inscrit dans la continuité de la blaxploitation, donc au cinéma, dans le fait de magnifier, de mettre en avant, de mettre en scène des personnages de héros noirs qui soient forts, quelquefois à l'extrême, parce que parfois ils sont un peu hyper virilistes dans certains cas, donc c'est pas sans poser d'autres problèmes, c'est ce que je vous disais justement. Mais en tout cas, on n'est plus dans les stéréotypes qui avaient cours peut-être 20 ou 30 ans avant, puisque ce qui a changé vraiment la donne, en l'occurrence, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1946, on n'est plus du tout dans cette optique-là. les Américains ne veulent plus entendre parler de ça, puisqu'ils justement, ils ont été, les vétérans noirs notamment, je pense à ça, ont été se battre sur le front européen, et une fois qu'ils sont rentrés aux États-Unis, beaucoup de noirs habitaient dans le sud des États-Unis, ils se retrouvent confrontés à la ségrégation, et du coup, ça ne passe plus. À partir de 46-47, il y a des mouvements à l'échelle nationale qui font que, des mouvements de protestation à l'échelle nationale qui font que les caricatures des noirs ne passent plus. Mais en 72-73, on est dans une autre dynamique, il y a d'autres problématiques qui sont mises en place, qui sont tout à fait critiquables hein, depuis notre point de vue actuel, comme je vous l'ai dit, l'hypervirilisme, etc.
Alors, est-ce que la question qui se pose, Pierre Krass, c'est par qui sont représentés ces super-héros noirs ? Parce qu'on sait, Black Panther, c'est une création de Jack Kirby au dessin, de Stan Lee au scénario. Pour l'adaptation du film, Marvel a décidé que ça allait être un film avec un super-héros noir réalisé par des noirs avec un public noir visé, même si le succès a dépassé. On arrive au temps d'aujourd'hui, à la polémique de l'appropriation culturelle, par qui doit être représenté les personnages noirs, les super-héros noirs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'historien impliqué dans ces représentations, Pierre Krass ?
Une très vaste question. Et oui, effectivement, il y a cette problématique de ce qu'on appelle maintenant l'appropriation culturelle. Est-ce qu'on peut, en tant que non-noir, se saisir d'un sujet, d'un personnage noir pour essayer de le représenter ? Je pense qu'il faut bien dissocier deux choses, c'est le savoir en soi qui est encyclopédique et accessible à chacun, et la question de l'expérience. Le fait est que lorsque vous avez un personnage qui se veut être porteur, qui se veut être une allégorie de l'expérience noire, je prends l'exemple des États-Unis, qui se veut être porteur de l'expérience noire aux États-Unis, il vaut mieux l'avoir vécu de l'intérieur pour pouvoir le retranscrire avec le plus de justesse possible. Mais en l'occurrence, si vous êtes un chercheur, que vous êtes blanc, il y a énormément de chercheurs blancs qui ont travaillé sur les noirs dans la BD, sur les noirs dans le cinéma. Tant que vous n'abordez pas la problématique sous un angle qui pourrait être vu comme condescendant, je ne pense pas que ça pose de problème en soi.
Même si c'est le débat actuel.
Oui, tout à fait.
Alors, bonjour Sonia Deschamps.
Bonjour.
Notre ami et partenaire du magazine de bande dessinée Casemate. Il y a quelques semaines, en interviewant autour justement d'une énième affaire Tintin au Congo, le dessinateur Jules, il avouait qu'il avait aussi un problème avec toute la génération des auteurs comme Hergé, en disant Hergé, il a eu droit à son procès, mais au moins lui, il a fait cet album, et donc il y a eu un album, mais pour les autres, il y a eu juste une absence totale de la représentation des Noirs, et lui-même qui reprend justement Lucky Luke, on le sait, il voudrait représenter les Noirs, il voudrait parler de l'esclavagisme aux États-Unis à cette période-là, et il se rend compte que, effectivement, c'est très délicat. Aujourd'hui, dans la bande dessinée française ou franco-belge, ou on peut même dire européenne, puisqu'il ne faut pas oublier l'Italie, le bon exemple de Hugo Pratt, qui va parler bien sûr de l'Éthiopie, pays qu'il a connu, puisque son père a été dans cette colonie-là, et il a créé, à travers sa série éthiopique, un personnage, un héros comme un autre. Elle en est où aujourd'hui, la bande dessinée française, dans la représentation des Noirs?
Je ne saurais pas vraiment dire, peut-être de manière générale, mais déjà, quand vous m'avez donné le thème de l'émission, c'est vrai qu'il y a une héroïne à laquelle j'ai pensé immédiatement, spontanément, c'est Aya. Aya de Yopougon, vous savez, c'est cette jeune femme de 19 ans qui vit à la fin des années 70 à Abidjan. Dans la série qui porte donc son nom, Aya de Yopougon, on suit son quotidien, tout simplement, les études, les parents, les amours, des petits riens qui pourtant dans cette série deviennent complètement passionnants. Les dialogues mélangent français et expressions ivoiriennes, on est tout de suite très proche des personnages, on est avec eux vraiment, qu'on ait un jour mis les pieds à Abidjan ou pas du tout comme moi. C'est vraiment hyper vivant, sensible aussi, on rit beaucoup. La scénariste, on posait la question de qui représente les Noirs en bande dessinée, c'est Marguerite Aboué qui est elle-même ivoirienne et qui a grandi à Abidjan dans le quartier populaire de Yopougon, comme Aya. Elle vit depuis l'âge de 12 ans en France, Marguerite Aboué. Je dis scénariste en parlant de Marguerite Aboué, mais elle dit plutôt dialoguiste parce que c'est les dialogues qu'elle aime vraiment quand elle écrit. Ça se sent vraiment, le plaisir est vraiment communicatif dans ses échanges. Les dessins, ce sont ceux de Clément Oubrery, le dessinateur de Pablo, de René Stone, entre autres. Aya de Yopougon, c'est 6 tomes publiés entre 2005 et 2011, plus de 700 000 exemplaires vendus. Il y a aussi un dessin animé qui est sorti au cinéma en 2013. Et Aya, c'est pas le seul personnage en fait qu'a créé Marguerite Aboué, le seul personnage africain. Je pense à Akissi, qui est en quelque sorte la petite sœur de Aya et dont les aventures sont dessinées par Mathieu Sapin. Et puis tout nouveau personnage aussi, tout récent, le commissaire Kwame, dessiné lui par Donatia Marie. Avec ses aventures, on est vraiment dans du polar, mais totalement loufoque.
Mais on est en Afrique.
Une fois très réussie. hyper dynamique. Effectivement, on est bien loin des séries, des images souvent associées à l'Afrique, la misère, la violence. Marguerite Abou, elle a une écriture vraiment heureuse. Bien entendu, c'est pas la seule à mettre en scène des Africains ou des Afro-descendants et à le faire bien. Mais moi, j'ai le sentiment, en tout cas, Pierre saura sans doute mieux le dire que moi, mais que dans la bande dessinée, on est beaucoup dans le documentaire ou dans le reportage. Et quand on est dans de la fiction, pour l'instant en tout cas, effectivement, on en parlait tout à l'heure, les personnages noirs sont plus souvent des personnages secondaires. C'est vrai que des vrais héros de bande dessinée, où c'est un personnage noir qui serait au premier plan, je n'en vois pas tant que ça en bande dessinée. C'est vrai que la fiction a du mal justement à s'en emparer.
Qu'est-ce que vous dites là, Pierre Krah? C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'auteurs de bande dessinée afro-descendants, pour reprendre le terme de Sonia Deschamps, ou il y a une autre raison?
Alors le fait est qu'il y en a. Il y a des auteurs de bande dessinée qui sont afro-descendants, qui sont africains, qui sont dans la diaspora également. Mais je crois que c'est surtout le fait qu'en France, alors bon, là on n'a pas le temps d'en discuter, mais c'est surtout la façon dont fonctionne le marché de la bande dessinée en France qui est très très particulier. Et c'est très très compliqué de se faire éditer, de se faire publier, etc. Mais il y a véritablement une vivacité énorme d'auteurs qui sont eux-mêmes africains sur le marché africain, qui visent le marché africain. Et qui décrivent des réalités africaines. Et effectivement, Aya Doyopougon, c'est l'exemple.
Et pour la France, ou pour l'Europe ?
Je crois que c'est Coffin Guessant Roger, il me semble, ou Roger Coffin Guessant, je ne sais plus exactement, qui a publié notamment un tome sur Chaka, sur l'histoire de Chaka Zulu. Donc il y a effectivement une vivacité, il y a une nécessité aussi, une envie de se réapproprier son histoire et de faire en sorte qu'on ne l'inscrive plus dans...
Non mais c'est-à-dire aujourd'hui, quand il y a un super-héros dans la bande dessinée, que ce soit américaine ou française ou franco-belge, il est toujours lié à l'Afrique. Il n'y a pas un super-héros noir qui soit français, italien, allemand.
Alors la bande dessinée franco-belge. Enfin, franco-belge ou européenne par extension. Ouais. Là, comme ça, à brûle pour point, j'en vois pas.
Et il y a eu des problèmes avec Ed Piskor. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur blanc américain qui a décidé de raconter l'histoire du hip-hop. Il est allé interviewer tous les grands rappeurs pour faire Hip-Hop Family Tree. Alors là, c'est très partagé. Il y a ceux qui adorent et puis d'autres qui disent que c'est vraiment le point de vue extérieur, c'est-à-dire sous-entendu par là, le point de vue d'un blanc sur un mouvement artistique noir.
Moi, je trouve à titre personnel une bande dessinée assez passionnante et en tout cas que ce soit n'importe qui se soit attelé au fait de raconter l'histoire du hip-hop et de le faire de cette façon, moi je trouve de toute façon que c'est une réussite. Après, est-ce que ça aurait été fait autrement si ça avait été fait par quelqu'un d'autre? Peut-être, mais en l'occurrence, c'est lui qui l'a fait.
Et c'est édité chez nous, chez Papa Guédé. Dernier coup de cœur de Sonia Deschamps, toujours pour parler de la représentation des Noirs dans la bande dessinée.
Oui, c'est un album tout récent qui a été publié au mois de janvier dernier chez Dargaud Noir, La vie méconnue de Claudette Colvin, c'est d'Émilie Plateau. Alors, on était dans la fiction avec Marguerite Abou, là on est plutôt dans du documentaire. Ça raconte donc la vie de Claudette Colvin, une adolescente afro-américaine qui, en fait, dans les années 50, dans sa petite ville où elle habitait, dans l'état de l'Alabama, eh bien, refusait de céder sa place à une femme blanche dans un bus. C'était quelques mois avant Rosa Parks, dont on se souvient tous du nom. Et pourtant, Claudette Colvin, on l'a oublié complètement, son nom. On va comprendre dans cet album pourquoi, hein, parce qu'elle était jeune, qu'elle vivait dans un quartier très pauvre, qu'elle avait la peau très foncée. Ça parle bien sûr de la ségrégation, de la lutte contre la ségrégation, du combat des femmes aussi, très important. Alors Émilie Plateau, elle avait l'habitude jusqu'à présent de raconter plutôt des récits autobiographiques. Là, c'est la vie d'une autre qu'elle raconte et c'est l'adaptation d'un roman de Tania de Montaigne. Et je vous recommande vraiment de le découvrir parce que tout à l'heure, on parlait de la représentation.
Ouais, c'est édité là, chez Dargaud.
Tout à fait. On n'est pas dans justement le côté pathos, dans le côté trop personnel. On a cette distance qui fait que c'est documentaire et que c'est passionnant et que c'est vraiment... On a l'impression d'assister à un petit théâtre de marionnettes de papier coupé.
Alors,
et c'est
bon, je ne l'ai pas lu, mais je connais bien l'histoire de Claudette Colvin.
Merci beaucoup, Pierre Krah. Je rappelle que vous êtes historien. Vous pouvez réécouter, bien sûr, cette émission en passant par franceculture.fr. Le Réveil culturel est réalisé par Vincent Abouchard avec Corinne Amar et Maël Ray pour la coordination. Et c'est, bien sûr, Emmanuel Morstincan qui était à la technique. La journée spéciale de France Culture autour de l'exposition Le modèle noir qui s'ouvre cette semaine au musée d'Orsay continue. Merci d'avoir participé, vous public du Salon du Livre, au Réveil culturel. Merci.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
France Culture présente le spectacle Fêlure, le silence des hommes de Dedo Cabal. Après le succès d'Oresti, opéra hip-hop, Dedo Cabal revient à sa tétralogie sur les mécanismes de fabrication du masculin. Avec ce deuxième opus, il donne corps aux multiples formes de violence à l'œuvre dans nos constructions intimes et interroge la notion de consentement.
Comment rompre le silence ? Fêlure, le silence des hommes, du 20 mars au 13 avril à la Colline à Paris. Un partenariat France Culture. Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. À lire dans ce nouveau numéro, À quoi bon la littérature dans un monde d'images ? De Christine Angot à Naomi Wallace, plus de 50 écrivains répondent. Un dossier exceptionnel. Au sommaire également, une sélection de 30 romans essentiels pour comprendre notre temps, La crise sociale par l'historien Gérard Noiriel, une masterclass avec Griette Satouf et un grand entretien avec Alain Touraine. Retrouvez Papier en kiosque et en librairie.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Et nous irons pour commencer ce journal au Mozambique, une semaine après le passage du cyclone Idai. Le pays compte plus de 240 morts, des dizaines de milliers de réfugiés sauvés des eaux. Le Brexit ne se fera pas le 29 mars prochain. L'Union européenne propose à Londres deux nouvelles dates et met le Parlement britannique devant ses responsabilités. Nous écouterons le président français Emmanuel Macron à ce propos. Et puis nous vous expliquerons pourquoi le Rassemblement national ne va pas présenter de candidat à la mairie de Paris. Garde-t-il des force et de l'argent pour les élections européennes, peut-être. Le passage du cyclone Idai au Mozambique a fait au moins 242 morts. Le pays fait face à une crise humanitaire sans précédent depuis une semaine maintenant. Une large zone de ce pays est encore envahie par les eaux. Des dizaines de milliers d'habitants sont en situation d'extrême précarité près de Beira, la deuxième ville du Mozambique. Notre envoyé spécial Adrien Barbier s'est rendu à Dondo, au nord de Beira, où une école sert d'abri de fortune pour des dizaines de sinistrés.
Gesticulant à l'arrière du camion, sont empilés des sacs de riz. Ce père de quatre enfants s'offusque de n'avoir eu que du pain. Dans cette école transformée en camp d'urgence à Dondo, la distribution alimentaire est chaotique. Les sinistrés ont faim, les secouristes sont dépassés et tout le monde se bouscule pour avoir un peu de soupe. Maria Antonio, mère de deux enfants, essaye sans succès de récupérer du soja.
C'est le premier jour aujourd'hui qu'on reçoit de l'aide. Mais ils n'en donnent pas à tout le monde, ils donnent seulement à ceux qui sont dans les salles. Ceux qui sont dehors, ils n'ont rien.
Des milliers de sinistrés se sont réfugiés à Dondo après le passage du cyclone Idai il y a une semaine. Certains sont hébergés dans des familles, mais la plupart ont été accueillis dans des salles de classe. Dans celle de José Macuiza, 27 ans, ils sont 69 à dormir à même le sol.
À cause du cyclone, toutes nos maisons sont détruites et on n'a pas d'autre endroit où aller et on n'a rien pour recommencer la construction.
D'après les humanitaires, les difficultés d'accès compliquent l'arrivée de l'aide alimentaire. Une semaine après la catastrophe, la route reliant Beira au reste du Mozambique est toujours coupée. Il faudra donc encore plusieurs jours avant que tout le monde ait quelque chose à manger.
Adrien Barbier à Dondo, Mozambique pour France Culture. Les dirigeants européens ont décidé hier soir à Bruxelles d'accorder au Royaume-Uni deux options pour un report du Brexit au-delà du 29 mars. En cas de rejet au Parlement britannique du texte négocié par Theresa May, la sortie se fera le 12 avril, un délai de 15 jours qui peut aussi permettre au Royaume-Uni de décider de rester un peu plus longtemps dans l'Union européenne et pour cela de participer aux élections européennes. Si le Parlement britannique accepte en revanche l'accord négocié, alors la sortie se fera le 22 mai prochain. Depuis Bruxelles, hier et après la première journée de sommet européen, le président français Emmanuel Macron s'en est expliqué. Écoutez-le.
Nous devons nous mettre en situation d'apporter une réponse au vote du peuple britannique allant vers un Brexit et respecter celui-ci. La deuxième chose, nous devons le faire de manière ordonnée. Puis le troisième point, nous devons lever l'incertitude avec des règles claires. Et donc nous avons apporté une réponse à la demande britannique, mais une réponse qui est protectrice de nos intérêts et qui permet à l'Union européenne de continuer à fonctionner. 12 avril, 22 mai.
Et la première ministre britannique Theresa May a répondu à Bruxelles hier. Le Parlement britannique, dit-elle, a des choix clairs devant lui. Elle n'envisage pas que le Royaume-Uni prenne part aux européennes prévues à la fin du mois de mai. Pendant ce temps, dans de nombreux pays, la campagne pour les élections européennes s'organise. Aux Pays-Bas, des élections régionales ont donné le ton cette semaine. Parti de rien, un nouveau parti nationaliste, europhobe, le Forum pour la démocratie, est devenu la première force politique du pays, devançant la droite droite libérale du Premier ministre qui n'a obtenu que 12 sièges, soit un siège de moins que le Forum de la démocratie. Une percée spectaculaire dans un contexte marqué par l'attentat de lundi dernier à Utrecht pour lequel la qualification terroriste a été retenue. Retour sur cette victoire de l'extrême droite avec Antoine Moutot.
Devant les caméras de télévision, le chef du nouveau parti nationaliste Forum pour la démocratie, Thierry Baudet, jubile.
Net als al die andere landen van onze
comme dans tous les autres pays du Nord, nous sommes ruinés par ceux qui devraient justement nous protéger. Nos universités, nos journalistes, mais aussi et surtout ruinés par nos gouvernants. Mais plus pour longtemps.
Thierry Baudet, 36 ans, est résolument en faveur d'une sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. Il est farouchement opposé à l'immigration. C'est aussi un climato-sceptique affiché, représentant d'un nationalisme bontain et bourgeois. Il aime également faire parler de lui sur les réseaux sociaux, comme la fois où sur Instagram il a posté une photo de lui complètement nu au bord d'une piscine. Ce lointain descendant de Français ou de Wallons, selon les sources, a beau parler un français parfait et avoir un immense portrait d'Alexis de Tocqueville dans son bureau, il considère la France comme un pays du Sud, au même titre que l'Italie, l'Espagne et le Portugal, et qui, selon lui, pèse trop sur l'économie et les décisions des Pays-Bas. Lui, en tout cas, devrait désormais peser beaucoup sur la politique néerlandaise. Le gouvernement perd sa majorité au Sénat et Forum pour la démocratie a également phagocyté une partie de l'extrême droite Geert Wilders, avec qui il s'était pourtant dit prêt à gouverner un jour.
On pouvait croire que le conflit catalan avait été mis en sourdine depuis l'ouverture du procès contre des dirigeants indépendantistes. Il est, au contraire, ce conflit reparti de plus belle ces derniers jours. Une histoire de ruban jaune qui envenime les relations entre Madrid et Barcelone. Le président régional Quim Torra risque même d'être destitué parce qu'il refuse de respecter la neutralité des bâtiments officiels, Mathieu de Taillac.
Liberté d'expression ou violation flagrante du devoir de neutralité des administrations publiques. C'est le dernier conflit qui oppose le gouvernement régional catalan aux autorités espagnoles. Depuis l'arrestation des dirigeants indépendantistes il y a un an et demi, le ruban jaune est devenu un symbole de solidarité avec ces derniers. Ce même ruban a été affiché sur la plupart des bâtiments qui dépendent du gouvernement catalan, mais à 5 semaines des élections générales, la commission électorale a ordonné à l'exécutif de Quim Torra de les retirer. Pour ce dernier, c'était un dilemme. S'il obtempérait, il avait l'air de se soumettre à Madrid et d'abandonner ses camarades. Mais si Torra refusait, alors il risquait d'être traîné devant les tribunaux. Finalement, le président régional a voulu jouer au plus fin. Il a remplacé une pancarte en faveur des prisonniers par une autre banderole où l'on pouvait lire le même texte, mais où le ruban n'était plus jaune, mais blanc. Ces subtilités chromatiques n'ont pas du tout fait rire la commission électorale. Cette dernière a donné l'ordre à la police régionale de retirer les symboles. Elle a aussi ouvert une procédure interne contre Torra. Et surtout, elle a saisi le parquet pour qu'il poursuive Quim Torra pour désobéissance. Le délit est passible de peine d'inéligibilité, comme son prédécesseur Carles Puigdemont. Torra pourrait donc être destitué, si bien sûr il est encore en poste d'ici la tenue de l'éventuel procès.
Les Algériens seront mobilisés aujourd'hui pour un 5e vendredi consécutif. Des manifestations sont prévues un peu partout dans le pays pour demander toujours le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Après la décision du Sénat de saisir le parquet contre 3 proches d'Emmanuel Macron dans l'affaire Benalla, Richard Ferrand a décidé d'annuler un déplacement commun à Lille prévu aujourd'hui avec Gérard Larcher, le président du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, l'a annoncé hier, sorte de boycott également du Premier ministre Édouard Philippe qui lui ne s'est pas rendu aux questions au gouvernement au Sénat hier. L'exécutif dénonce un coup politique du Sénat contre le pouvoir. Par crainte des violences, les manifestations des Gilets jaunes sont interdites à Marseille demain samedi par la préfecture. Hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a promis l'impunité zéro face aux casseurs. Le Rassemblement national renonce à la mairie de Paris. Le parti de Marine Le Pen ne présentera pas de liste aux municipales de 2020 dans la capitale, mais il ne sera pas non plus totalement absent, puisque le RN a choisi de se rallier au libéral Serge Federbouch, le fondateur du Parti des Libertés. Une stratégie d'union assez inédite, Rosalie Lafarge.
À l'époque du Front National, on voulait des candidats partout. L'ère du Rassemblement National rebat les cartes, au moins à Paris.
C'est-à-dire que le Rassemblement National a privilégié une approche d'union.
Seule façon, ou presque, pour espérer peser vraiment, selon Valran de Saint-Just, le trésorier du parti et président du groupe RN à la région Île-de-France, avait obtenu un peu plus de 6% des voix au premier tour des dernières municipales à Paris.
C'est vrai que, notamment à Paris, où la gauche est toute puissante et où la droite classique n'a jamais voulu vraiment faire attention à nous. Nos scores sont faibles, c'est difficile. C'est vrai que c'est la ville capitale où il faut y être. Mais je pense que c'est important aussi à Paris de montrer que nous sommes capables, au Rassemblement national, de parler et de s'allier avec des personnalités comme Serge Federbus, qui ne sont pas du tout adhérents du Rassemblement national. Et si on additionne leur score et les nôtres, on passe largement les 10% dans un certain nombre d'arrondissements.
Et c'est le seuil pour accéder au second tour. En misant sur cet énarque libéral, ancien conseiller à l'urbanisme de Bertrand Delanoë, le RN poursuit sa dédiabolisation et s'offre aussi le partage des frais de campagne, pas négligeable pour un parti toujours à la recherche de fonds pour financer sa course aux européennes.
La journée s'annonce globalement ensoleillée sur l'ensemble de la France ce vendredi. Il fait ce matin 9 degrés à Besançon, 11 à Paris, 14 à Bayonne, 18 degrés déjà à Marseille. Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40, vous nous rejoignez pour le Journal des idées. La notion d'identité se développe dans le champ politique, qu'elle soit nationale, religieuse, de genre ou de race. Au-delà de la forme d'évidence qu'elle affiche, elle semble bien problématique, Jacques.
Oui, et finalement assez confuse. Si elle sert à revendiquer un statut minoritaire, elle prend vite des allures victimaires, sans déboucher sur une vision commune et émancipatrice. Si elle affirme au contraire une prérogative dominante, comme dans l'usage politique de l'identité française, elle fonctionne comme un principe d'exclusion. Dans les deux cas, elle apparaît comme une conception figée, repliée sur elle-même, hostile au mélange, à l'évolution et, somme toute, à la liberté. Elle est relativement récente et hégémonique, voire invasive. Elle tente à supplanter la forme classique de l'action politique visant le bien commun. Bref, elle pourrait bien être le symptôme d'une société sans avenir collectif où chacun des défend son précaré. Pourtant, et c'est ce qui fait sans doute sa force de conviction, elle est aussi un dépôt, celui d'un passé interminable, selon l'expression de Patrick Boucheron à la relecture de l'ouvrage posthume inachevé, entretenant un rapport embarrassé avec son propre sujet, l'identité de la France par Fernand Braudel. À l'inverse de la Méditerranée qui menait gaillardement son lecteur de la description des grandes houles de l'histoire à la chronique heurtée du ressac de l'événement, l'identité de la France est une quête des profondeurs et à l'approche de la mort, une recherche de sa propre identité. On peut lire ce bel échange entre les historiens dans une nouvelle revue qui s'emploie justement à explorer toutes les Frances qui racontent la France. Zadig, ainsi nommé en hommage aux héros itinérants de Voltaire, comme l'explique Éric Fotorino, le directeur de la publication, dans son édito. Le dossier de cette première livraison porte à point nommé sur les initiatives globale ou locale, politique ou individuelle, pour réparer la France. Sur la question de l'identité, le grand entretien avec Mona Ozouf est édifiant. D'une enfance bretonne, où la langue française était synonyme d'émancipation, aux travaux sur la Révolution française, l'historienne estime que l'identité française, quelle que soit l'évolution de nos sociétés, se pense toujours comme une continuité terrienne. Géographie, espace, culture, voilà, on en revient à Braudel. Les pages débat de l'humanité se sont ouvertes à cette problématique lancinante. L'identité devient-elle un prisme politique ? Laurent Dubreuil, universitaire français aux États-Unis, qui vient de publier chez Gallimard un ouvrage intitulé « La dictature des identités », évoque cette nouvelle tyrannie du self victimaire qui envahit les campus, mais aussi la Maison Blanche. Le trumpisme est surtout une politique d'identité blanche, écrit-il, soit l'idée stérile d'une juxtaposition sans dialogue des « comme nous » et d'ajouter le dogme identitaire se diffuse merveilleusement via les outils du capitalisme technologique globalisé et communicationnel. Celui-ci, pour des motifs de contrôle et de commerce, a tout intérêt à ce que la parole et les esprits soient régentés et organisés depuis des stéréotypes négatifs ou positifs. C'est plus facile à manier pour l'algorithme. Vincent Descombes est l'auteur d'un livre prémonitoire de 2013 sur les embarras de l'identité, publié chez Gallimard, où il interroge interroge la fortune sémantique de la notion passée du dictionnaire de l'Académie française où elle signifie, ce qui ouvre déjà un abîme de perplexité, ce qui fait, donc la définition, ce qui fait que deux ou plusieurs choses ne sont qu'une même. Et on est passé donc à la conception moderne d'une ipséité fermée sur elle-même. Une réflexion qu'il prolonge ainsi dans l'Huma, Vincent Descombes, ce qui frappe dans les revendications identitaires est la différence entre des appartenances à des groupes réels, porteuses de solidarité, et des appartenances purement classificatoire, qui ne rattache les individus à aucun groupe historique identifiable. Être du même pays que d'autres fait de moi le citoyen, le concitoyen d'autres citoyens. Être du même sexe que quelqu'un ne suffit pas à créer entre nous un lien quelconque. Nathalie Heinisch, qui tente de définir par défaut la notion dans un livre publié sous le titre « Ce que n'est pas l'identité », estime que nous sommes tous, heureusement, beaucoup plus intelligents avec nous-mêmes que ne le voudrait cette conception réductrice. Nous savons jouer selon les contextes des différentes facettes qui nous constituent et nous percevoir, nous présenter et accepter d'être désignés selon notre sexe ou notre âge ou notre profession ou notre place dans la famille ou notre région d'origine ou notre nationalité ou notre religion si nous en avons une, etc. Et ne pas limiter notre identité à tel ou tel aspect, jouer en somme sur tous les tableaux. Laurent Dubreuil souligne que l'identitarisme contemporain instaure l'idée d'une juxtaposition sans dialogue des « comme nous ». Alors, à la formule de Nietzsche « deviens ce que tu es », l'anthropologue Jean-Loup Hamsel opposait celle-ci « sois ce que tu deviens ». Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Voilà, et on parle chez vous aujourd'hui de la Hongrie et de l'exclusion, la suspension temporaire de Viktor Orban du groupe PPE au Parlement européen.
C'est ça, à 2 mois maintenant des élections européennes, la droite populaire européenne vient de suspendre donc temporairement le parti de Viktor Orban, la Fidesz, en opposition frontale depuis quelque temps avec les institutions européennes et certaines de ses figures, jusqu'ici sans entrave. Il vient donc d'être sanctionné par son parti hôte, mais sanction ou arrangement, c'est une des questions. Et on examine ça avec vous, Paul Gradvol, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes historien spécialiste de la Hongrie, maître de conférence à l'Université de Lorraine et auteur tout récemment de « La Hongrie de Viktor Orban, souverainisme obsidional et renoncement à la démocratie ». C'est dans « Questions internationales 97 ». Alors, ce qu'on voit pour commencer, c'est que les excuses qui ont été présentées par le Premier ministre hongrois Viktor Orban le 14 à son parti n'ont pas suffi. Cette fois, c'est donc au droit de vote et à la possibilité de présenter des candidats au Parti populaire européen que la Fidesz doit renoncer. Pour commencer, qu'est-ce que vous retenez? C'est la quasi-unanimité de ce vote, 190 voix contre 3, ou le fait qu'il s'agisse d'une suspension et pas d'une exclusion, comme certains l'avaient demandé?
Alors, les 3 voix sont celles de la Fidesz, donc on peut parler d'une unanimité, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est une suspension sans durée précisé, donc c'est du temporaire qui peut s'inscrire dans le très long terme. La Fidesz ne veut pas dire qu'en septembre on sera fixé. Et la limite entre suspension et exclusion ici est tout à fait intéressante. Ce sera un beau débat sémantique, mais on peut dire que la Fidesz a obtenu de maintenir ses 2 options, à savoir essayer d'entrer dans une coalition avec des partis du type de celui de M. Salvini ou du type de celui de M. Kaczynski en Pologne. Et l'autre option, réintégrer le PPE. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que oui, contrairement à une exclusion où là, elle n'aurait pas eu le choix, cette possibilité est maintenue. Par contre, tout le discours de la Fidesz aujourd'hui est plombé par le fait qu'elle accepte de potentiellement remettre en question des choses qui ont été centrales pour elle.
Et alors précisément, on va parler.
Comprendre.
Oui.
Oui.
Non, parce que je voulais qu'on parle des modalités de cet accord qui va examiner certaines politiques effectivement centrales de la Fidesz. Mais juste, comment, de ce point de vue-là, vous interprétez l'attitude de Viktor Orban hier, qui avait l'air de triompher en un sens. Il disait « ce n'est pas possible de nous expulser ou de nous suspendre. Nous avons gagné 4 élections, c'est pourquoi nous avons décidé de nous suspendre unilatéralement, parce que tant il est vrai que la Fidesz, dans les formes, dit avoir accepté cette sanction. »
Regardez, Viktor Orban est capable de dire à peu près tout et n'importe quoi. On en a encore une preuve. Avant la réunion, le texte officiel de tous les représentants du gouvernement hongrois et de la Fidesz était de dire « si jamais il y a suspension, on part. Nous refusons cette humiliation. » Quelques heures plus tard, l'humiliation devient un succès de la Fidesz. Je rappelle quand même que parmi les choses exigées par le PPE, il y a le maintien de l'université Central European University, dite université Soros, à Budapest, alors que c'est un des boucs émissaires essentiels de toute la propagande d'Orban depuis des années. Donc il y a un recul manifeste, et les propos d'Orban sur sa victoire sont juste un écho de la façon dont il traite son opinion publique en interne.
Et concernant justement les modalités donc de cet accord, arrangement ou sanction, il y a donc un comité de trois sages du Parti populaire européen avec certains anciens dirigeants dont Herman Van Rompuy ou Wolfgang Schlüssel, et puis certaines conditions donc qui ont été posées avec un rapport d'évaluation à l'automne, dont effectivement pas de déplacement de cette université d'Europe centrale de Soros, pas de campagne anti UE non plus. Ça vous semble, disons, un rapport qui sera crédible à la fin, étant donné qui y participe, et des conditions assez restrictives pour infléchir la politique de la Fidesz?
Alors, il est impossible de préjuger de la qualité du travail qui va être fait par ces trois personnes. Schlüssel était lui-même quelqu'un qui a été remis en cause par le PPE. Son parti a fait l'objet d'une procédure identique, il est revenu dans le PPE. Donc, a priori, on peut dire que c'est favorable à Orban. J'ai toutefois des doutes profonds pour une raison très simple. Jamais avant, dans le PPE, il y a eu des partis qui insultaient publiquement les autres membres du PPE sous prétexte qu'ils étaient à Bruxelles. Et personne n'a développé la théorie du complot comme Orban l'a fait. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. La raison qui a fait que le PPE et notamment M. Juncker ont fini par ouvrir les yeux sur la Hongrie, c'est la propagande. C'est-à-dire que quand les Européens ont vu qu'il y avait des affiches en 4 sur 4 au moins avec la tête de M. Juncker accusé d'imposer des hordes de musulmans à la Hongrie, on a fini par réagir. Je crois que ce qu'on a du mal à percevoir, c'est la violence du contrôle idéologique exercé par le parti au pouvoir aujourd'hui en Hongrie. Ça atteint des degrés qui sont insoupçonnables. Un exemple, j'ai des collègues hongrois qui ont refusé de venir à des colloques à Paris parce qu'ils avaient l'impression que la ville était en permanence à feu et à sang, pas à cause des gilets jaunes, à cause du terrorisme.
Oui, effectivement, et avec un contrôle, disons, des médias et des médias publics en Hongrie, et cette campagne d'affichage à laquelle vous faisiez référence avec Jean-Claude Juncker un peu ricanant là aux côtés de George Soros sur fond de l'Europe ouvre la porte aux migrants. Du côté du PPE tout simplement et de sa stratégie, on a pu dire aussi que c'était une manière suspension temporaire d'empêcher aussi la Fidesz ou de donner un avertissement pour éviter qu'il ne glisse, disons, vers d'autres parti extrême droite ou national souverainiste, PIS ou Salvini. Est-ce que c'est un bon calcul politique, disons, de suspendre Orban, de le garder un peu sous contrôle de cette manière? C'est un peu ça, avec cette réintégration sous condition?
Si on se place du point de vue du PPE, manifestement, Manfred Weber, son candidat pour remplacer M. Juncker, pense que c'est un bon calcul. Moi, j'ai des doutes extrêmement forts, puisque Orban est quelqu'un d'extrêmement extrêmement volatile. C'est-à-dire qu'il fait des choses, au contraire, au dernier moment, peut changer d'avis. Donc, ce n'est pas un partenaire fiable. Et je pense que le PPE a juste essayé de limiter l'incendie, parce que faire la campagne électorale aujourd'hui pour les élections européennes avec Orban dans le parti, c'était impossible. Et faire la campagne avec Orban contre soi, c'était aussi extrêmement compliqué, parce que au sein du PPE, et on le voit bien avec les Républicains en France, il y a une tendance à reprendre le discours défense de la chrétienté, un discours extrêmement identitaire sans aucun programme réel par ailleurs, pour la campagne électorale. Et donc le PPE n'est pas en mesure aujourd'hui d'affronter réellement, idéologiquement, Orban, et ils essayent leur calcul et de se dire que pour les élections, ils vont pouvoir continuer à éviter les questions les plus difficiles et on verra bien ce qui se passe aux élections.
Oui, à voir si le PPE peut un peu reconquérir aussi ce centre en s'étant séparé un peu de la FIDES face notamment à l'REM aussi. Et puis dernièrement pour Orban, là vous disiez qu'effectivement il y a eu des annonces de programmes européens ou de rapprochement avec le PIS. Il disait le 15 une spectaculaire renaissance de l'Europe centrale sur fond de défense de la chrétienté, vraiment pas de programme ou une intention quand même, un rapprochement possible de certains de ces partis, encore une fois, souverainistes, nationales, catholiques ou souverainistes.
Alors, il y a un rapprochement possible, bien sûr, et d'ailleurs Orban y travaille très régulièrement, notamment en se rendant très souvent en Pologne, en finançant des partis en Slovénie, aussi un peu en Croatie, voire en Slovaquie, mais ça c'est des partis minoritaires hongrois. Donc il y a une tentative d'Orban d'aller dans le sens que vous indiquez. Rien ne dit qu'il y aura un succès. Mais du point de vue d'Orban, effectivement, il travaille à cette voie de sortie.
Oui, mais bah écoutez, en tout cas, on retiendra un des acquis à voir d'ici la fin de l'année, mais c'est que l'Université d'Europe centrale a de bonnes chances, peut-être meilleures chances, de rester en Hongrie. C'est à suivre. Et merci pour vos explications ce matin, Paul Gradvol, historien spécialiste de la Hongrie. On renverra à votre article, donc dans Questions internationales, la Hongrie de Viktor Orban, souverainisme obsidional et renoncement à la démocratie. Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Parlons culture, autrement, l'anachronique culturelle, Mathilde Serrel.
Et si nous faisions un voyage dans le temps, posons notre vaisseau spatial à l'inauguration de la fresque du Jugement dernier, devant le chantier des colonnes de Buren ou à la première du Sacre du Printemps. L'anachronique culturelle vous propose de revivre ces grands événements de la culture comme si c'était hier, pour comprendre ce qu'ils disent de l'époque, mais aussi de notre présent.
L'anachronique culturelle, Mathilde Serrel, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
France Culture présente Sunset, un film de Laszlo Nemes. Après Le Fils de Saul, Grand Prix au Festival de Cannes et Oscar du meilleur film étranger, le réalisateur nous emmène en 1913 au cœur de l'Empire austro-hongrois. Iris Leiter revient à Budapest pour travailler dans le magasin de chapeaux autrefois tenu par ses parents.
Zasulajmos Leiter.
Oswald.
Quand elle apprend qu'elle a un frère, Iris se lance dans une quête qui va la plonger dans un monde au bord du chaos. Sunset, un film de Laszlo Nemes, actuellement au cinéma. Un film France Culture.
Et à 6h57 sur France Culture, nous retrouvons les matins avec Guillaume Herner. Bonjour Guillaume.
Mais oui, Xavier Martinez, ça a l'air de vous embarrasser. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Pas du tout, et justement, il paraît qu'il faut le cultiver. Vous voulez nous parler de votre jardin.
Du vôtre aussi, si vous en avez un, Xavier, ou de la forêt à côté de chez vous. Car celle-ci est menacée par une maladie terrible dont personne ne parle, ou presque. Alors, il y a un article dans Le Figaro aujourd'hui qui fait exception. Je ne sais pas depuis combien de temps vous n'êtes pas allé en forêt, Xavier. Si vous y êtes allé, vous vous êtes certainement rendu compte qu'un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Le buis est en train de mourir, ou on peut même dire que tous les buis aujourd'hui sont morts, les buis domestiques, mais aussi les buis sauvages. C'est une catastrophe absolue qui les touche d'ailleurs doublement, parce qu'il y avait un papillon qui s'appelle la pyrale du buis qui les dévorait, qui laissait derrière elle des chenilles, au pire du bois mort. Mais en plus maintenant, il y a deux champignons qui s'attaquent également aux buis. Alors inutile de vous dire qu'aucune arme n'est susceptible de venir à bout de ces deux fléaux. Il y aurait bien sûr des cochonneries chimiques à utiliser, mais outre qu'il s'agit de cochonneries, on ne va pas pulvériser l'ensemble des buis situés dans l'Hexagone. Par ailleurs, le mal, hélas, a déjà frappé. Alors, par exemple, dans la Drôme, la forêt est complètement défigurée. Et la même situation se retrouve un peu partout en France. Jadis, c'était localisé à la région Rhône-Alpes. Maintenant, c'est général. Par exemple, les jardins du château de Vaux-le-Vicomte ont été complètement dévastés, tant et si bien qu'aujourd'hui, il s'agit de remplacer le buis par un autre végétal. Mais en fait, il n'y a à peu près aucune solution de satisfaisante. Le houx, ça convient pas à tous les sols. La santoline, elle doit être replantée tous les 5 ans. Et l'IF a vraiment des problèmes avec les sols les moins drainants. Alors, il resterait bien entendu la possibilité de créer un buis OGM, toxique pour les pyrales. Mais là aussi, je vous laisse mesurer les conséquences de cette mesure. En fait, la disparition du buis est gravissime puisqu'elle affecte tout simplement le paysage. Elle change profondément ce qui conférait leur personnalité aux forêts, aux bosquets, à l'art topiaire lorsqu'il était pratiqué. Voilà pourquoi, à mon sens, il ne faut pas laisser mourir le buis sans bruit.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Et aujourd'hui, une journée sur France Culture consacrée au modèle noir, une exposition événement au musée d'Orsay en partenariat avec France Culture. Il s'agit par exemple de l'or, c'est ainsi que s'appelait la femme qui a servi de modèle à la servante qui figure aux côtés de la célèbre Olympia d'Édouard Manet. Joseph, Maria ou encore Chocolat ont eux aussi posé pour de nombreux artistes. Qui étaient-ils et quel regard était porté sur eux? Que nous apprend la représentation de ces modèles avec les liens qu'ils entretenaient en France? Que disent-ils du racisme, du proto-racisme, et quel témoignage historique apportent ces œuvres? On en parlera aux environs de 7h40 avec Cécile Debray, qui est co-commissaire de l'exposition. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.